Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, les élections présidentielles, l'élection présidentielle à Madagascar.
C'est ça, le deuxième tour, un scrutin présidentiel à risque à Madagascar. Première élection depuis 2013 qui met aux prises l'ancien président Marc Ravalomanana et l'ancien président Andry Rajoelina. Un duel d'anciens présidents donc fortunés dans le quatrième pays le plus pauvre au monde. On voit ça avec vous, Christiane Rafidina Rivo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone depuis La Réunion. Vous y enseignez à l'université, professeur en géopolitique. Vous êtes aussi chercheuse au CEVIPOF de Sciences Po. Alors, cette élection à Madagascar, on peut dire qu'elle se déroule dans un contexte, disons, troublé, dans lequel il y a une crise post-électorale sérieuse tous les 6 ans, un peu depuis 1991. Cette fois, on n'a pas encore les résultats. Ils seront proclamés provisoirement à partir du 1er janvier. Mais déjà, on voit que les deux candidats se sont dit hier sûrs de leur victoire devant leur électorat. Est-ce qu'il y a des raisons de penser que ce sera différent des autres fois s'ils préemptent déjà cette victoire ?
Il est vrai que Madagascar connaît des cycles de crise liés aux élections depuis plusieurs décennies. Ce qui diffère peut-être aujourd'hui, c'est de se dire que c'est un processus depuis avril 2018 de crise parlementaire qui s'est résorbé et qui a trouvé sa résolution dans le processus électoral. Et aujourd'hui, on constate que les deux candidats considèrent le scrutin, la qualité démocratique du scrutin, comme suffisamment acceptable pour que le processus électoral se poursuive jusqu'ici. Mmh. Maintenant, ce que l'on a vu depuis hier, c'est que tous les partisans et les citoyens convergent sur la nécessité de se mobiliser pour régimer les Guinées, protéger son vote à titre individuel comme à titre collectif. Et donc, nous avons tous les ingrédients d'une institutionnalisation du processus électoral comme un risque de crise effectivement.
Alors vous avez déjà évoqué cet avertissement là avec cet épisode concernant la loi électorale avant l'été, donc il fallait garantir cette élection propre. Justement concernant la qualité du scrutin, quelles informations, quelle analyse vous en faites? Il y a eu des doutes sur l'intégrité, les deux candidats en ont formulé en octobre concernant un système informatique électoral truqué, disait Rajoelina, ou des bulletins vierges qu'a produit Ravalomanana. Est-ce que ce sont des figures obligées ou des doutes réels ?
Des doutes réels, sans doute, mais on peut dire sans faire de jeu de mots, mais il y a surtout eu des recours qui ont été déposés auprès de la Haute Cour constitutionnelle au premier tour. Marc Ravalomanana a décidé de retirer les 208, il me semble, recours qu'il a déposés pour que le processus électoral se poursuive. Et donc, c'est pour ça que je parlais de degré d'acceptance.
Ouais. Et concernant la qualité du scrutin, juste les listes électorales, c'est vrai qu'elles étaient assez ouvertes au début. Il y avait 36 candidats. Finalement, on se retrouve avec deux anciens présidents. Je crois que les quatre premiers au premier tour, c'était quatre anciens présidents. On a un scrutin bien moins ouvert qu'il n'y paraît quand même.
C'est un scrutin ouvert, complètement ouvert du point de vue des candidatures, mais moins ouvert dans le sens des résultats, si c'est ce que vous voulez dire. En tout cas, je trouve que c'est une ouverture intéressante qui montre la réelle assise populaire des deux candidats. Mmh. C'est indéniable. Ceci dit, est-ce que cela va se départager, puisque tout l'enjeu d'un processus électoral est là, il faut un vainqueur et un seul, et qu'il soit suffisamment accepté pour qu'il puisse gouverner en toute stabilité.
Oui. Et est-ce que la première analyse qu'on peut faire, c'est qu'il y a eu un resserrement de toute évidence autour des figures connues, peut-être trop connues justement, ces deux candidats, on peut en dire un mot, mais c'est quand même deux tycoons, on pourrait le dire comme ça, dans le pays. Paysage industriel ou économique de Madagascar, en plus d'avoir été président.
Oui, on peut dire cela. Ce qui est peut-être plus flagrant encore aujourd'hui, c'est que ce sont deux candidats, je disais tout à l'heure, qui ont une réelle assise populaire, mais qui sont tous les deux confrontés à un gros problème, c'est qu'il y a une très forte volatilité des votes et une difficulté par rapport à la capacité à se mobiliser des électeurs, que ce soit pour des raisons tout à fait pratiques d'accès aux urnes ou aussi de suffisamment de comment dire de disponibilité dans la vie quotidienne pour pouvoir penser aux élections. Mmh. Mais l'autre dimension, il me semble, c'est c'est aussi la rivalité très forte entre les soutiens puissants de l'un et de l'autre.
Oui, puisque c'était à l'époque en 2009, je crois, des manifestations manœuvrées par Radio Elina ou activées par lui qui avaient amené au départ de Ravalomanan. Et puis Radio Elina s'était proclamé président. Juste un dernier mot sur ce qu'on peut dire du scrutin lui-même. Justement, vous parlez de la participation. Elle était assez faible au premier tour. Il y avait 54% d'abstention. Là, on a dit que c'était un peu moins, 4 ou 5 points de moins. Qu'est-ce qu'il faut en déduire de cette désaffection ?
C'est difficile d'analyser comme cela à chaud, hein. Mais d'une façon générale, l'état structurel de l'absentéisme à Madagascar, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les conditions pratiques des élections, mais l'autre dimension structurelle, c'est qu'il y a depuis très longtemps une désaffection vis-à-vis du politique, d'une façon, une méfiance, on va dire, plutôt qu'une désaffection, une méfiance accrue avec les crises. Et aujourd'hui, donc, il est difficile, effectivement, de maintenir une mobilisation, même si on peut l'obtenir sur des événements. Oui. Et c'est cela, donc, qui se joue, en espérant que la démocratisation se fasse aussi dans une mobilisation citoyenne tout au long des mandats électifs.
Oui, ce qui explique en partie que ces grands rendez-vous électoraux sont l'occasion de manifester des mécontentements, peut-être parfois des soulèvements. C'est ce que disait une chercheuse Centre d'Observatoire de la vie politique de Madagascar, que vous devez connaître, Keta Kandriana Rafitozone. Elle disait la crise n'est pas politique, elle est sociale. C'est vrai qu'il y a ce vieux fond de pauvreté à Madagascar, assez étonnant, désastre énigmatique, disaient les échos. Est-ce que vous êtes d'accord sur, disons, cette agitation sociale ?
Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de crise politique à l'heure où nous parlons. Et que la crise est effectivement sociale, économique, voire sécuritaire sur certains points, très important dans le quotidien donc de la population. Ceci dit, le point de désaccord serait peut-être de l'analyse sur la crise politique dans le temps long. Et en fait, on se retrouve avec un déficit politique dans le sens du politique. Et il me semble qu'à Madagascar, le gros souci, c'est l'incapacité, en tout cas la faiblesse des institutions donc à se consolider en termes démocratiques et la faiblesse entre guillemets des leaders aussi de faire advenir un mécanisme stable des institutions démocratiques, stable et démocratique.
Et justement, concernant les programmes de ces leaders, donc les deux derniers finalistes, je crois que Ravalomanana avait prévu, lui, de pousser la décentralisation de l'île, sujet important. Radio Elina, lui, a mis l'accent sur des grands projets. Il a parlé de villes nouvelles, de mise en culture de terre. On sait que c'est très important, la question de l'autosuffisance alimentaire pour Madagascar. C'est lui qui a le programme économique, disons, le plus poussé en ce sens ?
André Azuel a un programme économique très ambitieux qu'il a qualifié d'émergence et qui se base sur de grands investissements, mais dont il ne dit pas d'où proviendrait cet argent, si ce n'est donc une mobilisation des finances internes au pays, notamment la création de nouveaux produits financiers, mais qui ne suffiront certainement pas à financer ce programme très ambitieux. Ceci dit, il y a des propositions très intéressantes, notamment sur l'urbanisation. Mais du côté Ravalomanan, on se rend compte que là, c'est quelque chose qui est très nouveau dans le paysage politique aussi, malgré toutes les affirmations qui ont été dites jusqu'ici. C'est la proposition d'une décentralisation effective. Si cela se réalise, cela aura besoin aussi de beaucoup de financement. Et lui met en avant donc la mobilisation des financiers et bailleurs traditionnels des Nations Unies et des investisseurs de la communauté internationale connue de Madagascar.
Et justement, est-ce que ce n'est pas un des points cruciaux pour l'avenir de Madagascar, cette question des financements ? Je crois que l'ancien président Rajaonari Mampianina, lui, s'était vanté d'avoir récolté 6,4 milliards de dollars de promesses de dons. Il y a eu beaucoup de doutes sur les liens troubles, même pas des doutes, entre politique, tycoon et puis affaires politiques. Est-ce que ça en fait pas un pays facile, pour le dire ainsi, pour la prédation économique Madagascar, cette situation ?
Oui, c'est une situation qui favorise la prédation économique, qui est souvent, très souvent, un corollaire d'une prédation politique. Et c'est un enjeu réel et très important pour la vie politique malgache et pour le développement économique, très certainement. c'est quelque chose, cette question du financement a vraiment besoin de transparence. Et aussi de débats politiques, puisque nous pensons un instant à la question du code minier, qui devait être donc revu depuis plusieurs années, ce qui n'est toujours pas fait jusqu'à aujourd'hui. Pensons à tout ce qui peut être les plus importants revenus du budget de Madagascar, donc les impôts. Les principaux contribuables malgaches, je le rappelle, sont les firmes multinationales. Et donc il y a là des enjeux très importants pour la vie politique malgache et certainement à repenser de façon démocratique et dans le débat démocratique ce qui peut être le mieux pour le développement du pays au bénéfice du grand monde.
Oui, et avec en toile de fond, comme dans tout l'océan Indien, la question des investissements chinois, un sujet en soi. En tout cas, merci beaucoup pour vos explications aujourd'hui depuis La Réunion. Christiane Rafidina-Rivo, professeure en géopolitique à l'Université de La Réunion, chercheuse au CEVIPOF de Sciences Po. Merci et bonne journée.